pas être trop lourd. Envisager cette question de la surspécialisation et de la résistance à cette extension du domaine pathologique. Alors, M. Houellebecq porte le même nom que moi. Vous savez, il s'appelle Michel Thomas. Donc, je vais faire un petit emprunt dans son titre. Mais avant Michel Houellebecq, quand même notre maître à tous, c'est Knock. Et je vous ai rappelé que le 15 décembre 1923, il va y avoir notre anniversaire très bientôt, Louis Jouvet, qui n'était pas rien, a mis en scène et a joué pour la première fois Knock ou le triomphe de la médecine. 96 ans plus tard, ne sommes-nous pas en train de vivre ce que Romain et le docteur Knock faisaient semblant de prédire parce qu'ils n'y croyaient pas trop à l'époque. La diapositive, s'il te plaît. Alors j'ai quand même sorti deux citations de ce texte que je me plais à relire une fois tous les 4 ou 5 ans. La première, tout le monde la connaît, l'acte 1, les gens bien portants sont des malades qui s'ignorent. Mais dans la scène 3 du deuxième acte, il y a ces mots que Jouvet prononce. La santé n'est qu'un mot, qu'il n'y aurait aucun inconvénient à rayer de notre vocabulaire. Pour ma part, je ne connais que des gens plus ou moins atteints de maladies, plus ou moins nombreuses, à évolution plus ou moins rapide. Naturellement, si vous allez leur dire qu'ils sont en bonne santé, ils ne demandent qu'à vous croire, mais vous les trompez. C'est quand même assez fabuleux. Il y a deux ou trois passages dans la pièce qui sont vraiment, quand on pense à l'époque où elle a été écrite, des choses extraordinaires. Suivante. Alors, quand on se plonge dans notre pays, en 2021, le 21e siècle, au sein des pays développés, c'est, comme l'a dit Jessica lors de notre deuxième colloque, la France est le pays du dépistage, mais pas le pays de la prévention. Et on est obligé, 7 ans après, de constater que ça n'a pas vraiment changé, et que c'est très dommage, car on passe à côté, là, d'une politique efficace de santé publique, d'une médecine efficace, et ce pays du dépistage entraîne une inflation de surdiagnostic, de surtraitement, avec une balance bénéfice-risque qui est tout à fait aléatoire. Nos collègues ont essayé d'apporter modestement, avec votre collaboration, une pierre à cet édifice. Mais nous sommes posés la question de savoir si, à côté de ce surdépistage, il n'y avait pas d'autres causes presque plus fondamentales à la surmédicalisation, et est-ce que la multiplication des spécialités, puis des surspécialités, des sous-spécialités, n'est-elle pas un facteur important de cette résistible extension du domaine du pathologique? Alors, quelques chiffres, vous les connaissez, entre 2012 et 2016, par exemple, les dépenses de santé avaient cru de 11% et que ces dépenses étaient liées d'abord aux hospitalisations, puis aux maladies psychiatriques, puis aux cancers. La diapositive suivante, en partant du rouge en haut, vous voyez que les hospitalisations ponctuelles, les maladies psychiatriques et les traitements psychotropes, en deuxième position des remboursements d'assurance maladie, les cancers, troisième, les maladies cardio-neurovasculaires en quatrième, les soins courants en cinquième, la maternité, le diabète. Bon, voilà les grandes causes de dépenses. Alors là-dedans, il y a évidemment beaucoup de dépenses qui sont absolument indispensables, et peut-être même certaines prises en charge qui sont incomplètes. Mais alors, revenons un petit peu dans l'histoire des spécialités, parce que c'est l'avantage de ne plus être tout à fait jeune. J'étais déjà né quand les spécialités ont officiellement été reconnues en France, mais ce n'est quand même qu'en 1947. C'est pas si vieux. Avant 1947, il n'y avait aucune spécialité officielle en France. Bien sûr,
il y avait déjà des gens qui étaient cardiologues.
Et au départ, il y avait 7 spécialités d'exercice exclusives, 4 spécialités de compétences, et vous voyez qu'en rouge, en dehors de la chirurgie, de la biologie, de l'électroradiologie, qui étaient des spécialités d'exercice exclusif, apparaissaient déjà l'ORL, l'ophtalmo, la stomato, des choses très ponctuelles, et la gynéco-obstétrique. Et puis 4 spécialités de compétences, la pneumophtysio, parce qu'à l'époque, la tuberculose était quand même encore le problème majeur, la dermatovénérologie, la syphilis, la blénorragie, peut-être simplement, la neurologie et la psychiatrie. Et au départ, en 1947, il n'y avait que 8 certificats d'études spéciales en France. On dit déjà qu'à ce moment-là, on ne parle pas de cardiologie, on ne parle pas de... Jusqu'en 1982, les études de médecine en France étaient largement dominées par les concours hospitaliers. Le concours d'Exterma d'abord, et puis quand on était nommé expert des hôpitaux de Paris, si on l'était, il y avait seulement un tiers d'une promotion externe. Après, on passait le concours de l'internat, et au total, eh bien, on avait une très sévère sélection, puisque un étudiant sur 10 au maximum était interne de ville de faculté. Mais ces gens-là, pour ceux qui choisissaient médecine, il y avait ou chirurgie ou médecine. Pour ceux qui choisissaient médecine, ces internes dégageaient les futurs cadres hospitaliers ou universitaires, ou hospitaliers universitaires. Et pour ceux qui choisissaient l'installation en ville, anciens internes des hôpitaux de Paris, de Lyon, de Montpellier, c'est un niveau de réputation un peu moins important, c'est suffisant, on mettait sa plaque, on était de facto consultant. On n'avait pas besoin de se casser les ménages, les confrères, généralistes, ah voilà, le docteur machin, ancien médecin des hôpitaux de Paris, j'ai un problème difficile, je lui demande son nom. Et c'était ça la vocation de l'internat de ville de faculté pour ceux qui ne choisissaient pas ou ne réussissaient pas à faire carrière à l'hôpital ou à la faculté. Et puis, très vite, avec les années, il est apparu que les spécialités se développaient. Vous dites ça, on va le voir. Et les spécialités se développant, on a dit, ben, les internes, de ville de faculté, toujours, si vous voulez être spécialiste, c'est pas dur. De toute façon, vous êtes d'un niveau théoriquement très supérieur aux autres, donc il suffira que vous passiez 3 semestres sur 8 dans un service de cardio, de neuro, de gastro, et vous serez automatiquement qualifié comme spécialiste. Et donc, mais il y avait déjà un petit peu un verre dans le fruit, parce que les internes, dans les années, je dirais, 60, 70, ont commencé à exercer en tant que spécialiste et pas seulement en tant que consultant. Cette période, donc, avait déjà vu augmenter le nombre de spécialités de médecine validées par l'ordre, cardio, gastro, rhumato, endocrino, pédiatrie, grande spécialité aujourd'hui. Et en France comme dans le monde, c'était toujours quand même ce qui dominait. Alors, le nombre des spécialistes qui étaient issus de ces certificats d'études spéciales qui permettaient de devenir spécialiste sans passer par le concours hospitalier externat internat était quand même de plus en plus important. Alors, en 82, il y a une première réforme qui va acter l'évolution des mentalités, y compris chez les étudiants en médecine. On va transformer l'internat de ville de faculté en internat qualifiant. C'est-à-dire qu'on va, par définition, former des internes qui vont être spécialistes. Et les DES, les diplômes d'études spécialisées, vont remplacer les CES en 1984. Alors l'internat de cette période reste sélectif, quoique sensiblement au moins moitié moins, c'est-à-dire qu'un étudiant sur 4 ou sur 5 va devenir interne à la place de 1 sur 10 dans les meilleures années. Mais ça reste un choix basé sur le volontariat. Les hôpitaux n'organisent plus ces concours, ce sont les facultés qui les organisent. Et donc, comme vous le voyez, ils ne sont plus destinés à former des consultants en médecine de ville, mais des spécialistes de ville. Alors, ceux qui ne sont pas reçus, ce qui reste quand même la majorité, eh bien, vont devenir résidents, et ce résidanat va former les généralistes. C'est-à-dire que cette réforme terrible de 89 va définitivement dévaloriser la médecine générale, va faire du métier le plus difficile, le plus beau métier de la médecine, va en faire le rebut de la formation. Comme on peut toujours faire pire, eh bien, en 2004, on va encore faire pire, on va supprimer tout concours. Et on va faire des épreuves nationales classantes qui existent toujours et qui permettent simplement de choisir sa spécialité. Alors, entre-temps, la médecine générale, il faut bien qu'elle soit choisie, donc ça va devenir une spécialité, mais une spécialité toujours au rabais, puisque c'est la seule qui nécessitera seulement 3 ans de formation. Alors, les épreuves classantes nationales, il y a toujours eu des trucs rigolos, moi j'ai vu les résultats, et il y avait des étudiants qui avaient été présents, qui avaient émargé, et qui avaient effectivement 0,5 sur 20. Et bien, ils étaient reçus quand même. Ils choisissaient en dernier, c'est tout. Enfin, on était un petit peu dans la bêtise. Et pendant ce temps-là, l'inflation des spécialités a continué. En 87, l'ordre reconnaissait 22 spécialités exclusives exercices, et non plus 8 comme au départ. En 2016, 31 DES qualifiants, plus 11 spécialités complémentaires qualifiantes, c'est-à-dire permettant l'exercice spécifique, les DESC. En 2018, on y est presque, 30 DES médicaux, dont 5 nouveaux, l'allergologie, la gériatrie, la médecine d'urgence, la médecine vasculaire, les maladies infectieuses et tropicales, avec 17 options, qui sont des sous-spécialités, 13 DES chirurgicaux, dont la gynéco, l'ORL, l'ophtalmo, avec 6 options, et le DES de biologie, mais lui-même, il faut quand même une spécialisation, donc il y a 5 options différentes dans la biologie, et au total, 44 diplômes d'études spécialisées avec 28 options. Pour être un peu caricatural, on dirait que bientôt, on va manquer d'étudiants en médecine, car il y aura plus de DES et d'options que d'étudiants en médecine. Mais plus ça, sérieusement, et plus ça me semble plus grave, on a plus de spécialistes que de généralistes. Les généralistes en activité régulière diminuent. Vous voyez qu'en 2010, 94 200, en 2018, 87 800. 7% de moins de généralistes. Et dans le même temps, les spécialistes, évidemment, croissent et embellissent, passent de 82 000 à 85 000. Et cette année 2019, le croisement est effectué, il y a plus de spécialistes. Que de généralisme régulière. Suivante. Alors, la question qu'on ne peut pas ne pas se poser, c'est de savoir en quoi cette inflation de spécialistes et de sur- ou de sous-spécialistes peut-elle être un facteur de la résistible ascension d'une nouvelle pathologie. Et en quoi peut-elle puissamment contribuer au triomphe de l'Europe. Moi, quand on regarde, on est tenté vraiment de répondre à une conseille suivante. La sur- et la sous-spécialisation fait que le médecin ainsi formé s'éloigne de plus en plus de la prise en charge d'un malade pour appréhender une maladie. Et parfois même, on voit des spécialistes qui sont les spécialistes d'une forme particulière d'une maladie. Ah, La surspécialisation fait qu'on a tendance à ne plus former des médecins, mais des techniciens plus ou moins supérieurs de santé.
Les plus supérieurs, on peut penser que ça va baisser.
Le spécialiste, évidemment, espère tout connaître de la maladie qu'il soigne. Je disais à mes étudiants, si vous devenez spécialiste de l'ongle du petit doigt de la main gauche, vous connaîtrez vraisemblablement beaucoup de choses sur l'ongle du petit doigt de la gauche, mais je ne suis pas sûr que vous connaissiez bien. Mais cependant, c'est cette démarche qui est très rassurante pour vous. Le spécialiste, il est en concurrence avec les autres spécialistes pour faire reconnaître son domaine comme important. Et on voit fleurir cette notion les verrues plantaires, c'est un grand problème de santé publique.
La prostate, c'est
un problème de santé publique.
Sous-diagnostiqué, sous-évalué. Voilà.
Pour obtenir des crédits, des postes, et puis simplement, on dit, pour faire vivre le cabinet, pour ça tourne. Le généraliste, il est confronté à l'homme malade, dans son milieu, c'est pas facile, il est moins payé, il travaille plus, il est moins considéré, on marche sur la tête. Suivant. Les spécialités aussi contribuent à mon sens à la surmédicalisation en faisant de la propagande. On a vu fleurir les journées mondiales ou les journées nationales de toutes sortes de maladies. Et j'ai regardé par exemple au mois de mai, c'était juste avant la date prévue de notre colloque initial, et bien le 2 c'était la journée de l'autisme, le 7 de l'asthme, le 10 du lupus, le 12 de la fibromyalgie, le 16 de l'intolérance au gluten, le 17 de l'hypertension artérielle, le 18 de la soi-disant maladie de Lyme, mais aussi l'obésité, le 18, c'est pareil, le 19 des maladies inflammatoires du greffe et du intestin, le 24 le mélanome, le 25 de la thyroïde, le 30 de la sclérose en place. Il n'y a plus de place, il faut allonger les mois, on ne s'en tire pas.
Augmenter le jour.
Alors, on reviendra au cours de colloque aussi sur l'invention des maladies, qui est souvent le fait de spécialistes. Alors, comme par exemple l'hypersensibilité non cœliaque au gluten. Alors ça, c'est fabuleux quand même. Qui est des marchands de produits céréaliers qui vivent de ça? C'est discutable, et ça ne me regarde pas, pas directement. Mais qu'il y ait des gastro-entérologues qui aient fait ça une maladie et qui en vivent, ça me semble un peu tristounet. Parlons de la soi-disant séronégative maladie de Lyme. Le terrible domaine des troubles du développement avec hyperactivité de l'enfant, hein, ça c'est épouvantable. Voilà, et il y a eu il y a peu de temps un papier de Romaroni qui disait les médecins sont si divisés par des luttes de factions et de promotion de leurs maladies et services qu'ils ne fonctionnent plus comme une profession cohérente poursuivant un bien commun. Ça, je crois que c'est quelque chose qui doit être porté à la réflexion au départ de nos étudiants les plus jeunes. Donc, en guise de conclusion, il ne faut pas dire que les spécialités, ça ne sert à rien. Non, bien entendu, les spécialités sont nécessaires, mais un nombre limité de spécialités serait bien préférable. Il y a une vingtaine d'années, déjà mieux, mais pas si mieux, les rhumatologues se sont posé la question de savoir si il était juste qu'ils constituent une spécialité. Il y a eu un grand débat au sein de la Société française de rhumatologie pour savoir si elle allait faire harakiri et qu'elle allait tout bonnement rejoindre la médecine interne ou si elle devait rester spécialisée. Très peu, un long débat les trop spécialistes ont emporté et la rhumatologie a continué à prospérer. Mais les spécialités sont nécessaires. La multiplication des spécialités, elle, à mon avis, elle est délétère parce que plus on est spécialiste et plus on s'éloigne du malade. Et le malade, même s'il souffre de façon précise dans un domaine particulier, qu'un organe en particulier est plus malmené que l'autre, eh bien, ça reste un malade qui est un entier, qui vit dans un milieu donné, et ne pas avoir l'attitude de médecin ne permet pas de le prendre en charge de façon efficace. Il y a beaucoup trop de spécialistes à l'heure actuelle, malheureusement ça ne s'arrange pas, et il faut beaucoup plus de médecins généralistes, et ces médecins généralistes, il faut revaloriser leur métier. Je disais au début que pour moi c'était le plus beau métier. De toute ma carrière, les 3 mois pendant lesquels j'étais médecin de campagne sont sans doute ceux qui m'ont laissé le plus fort souvenir. Et quand je racontais ça à des étudiants de clinique, je disais, vous êtes le seul à dire ça. C'est pas vrai, sur vous raconter du soir. Eh non. Mais c'est vrai que cette sous-reconnaissance de la médecine générale, c'est dramatique. La médecine, c'est pas difficile d'apprendre une spécialité. Moi, pour ma carrière, j'ai fait plusieurs spécialités. J'ai été médecin tropicaliste, j'ai été gastro-entérologue, et j'ai été endocrinologue. À chaque fois que j'ai changé de spécialité, avant d'être interniste, eh bien, il m'a fallu 1 an de travail pour tout savoir que les gens savaient, 1 an maximum. Et puis, 2 ans de pratique pour en savoir autant que la moyenne des gens en pratique. Pour être généraliste, c'est plus difficile, c'est plus long, c'est... S'il y a une spécialité qui justifierait un temps d'études plus long, c'est la médecine générale, et pas la cardiologie, et pas la neurophysiologie. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire, et je vous remercie de votre attention.